Vous écoutez, on lit pour vous.
Le courage d'une politicienne oubliée. Un texte d'Yves Boisvert paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Washington. Il voulait débusquer les ennemis de l'intérieur dans l'armée américaine, dans la fonction publique, dans les médias. Les congédier. Leur faire un procès. Les démocrates étaient des traîtres et des communistes à ses yeux. Même si ses collègues républicains n'approuvaient pas toujours ses méthodes, ils le laissaient faire. Ils avaient peur de lui. Alors, pendant des années, des gens ont été traînés devant son comité du Sénat et accusés injustement. Leur réputation a été salie, leur vie privée exposée, car il s'en est pris aux homosexuels. Joseph McCarthy était l'homme le plus craint à Washington au début des années 1950. L'histoire ne se répète peut-être pas, mais il lui arrive de rimer. Les mots de McCarthy sont aussi dans le répertoire de Donald Trump. C'est ce qui a intéressé l'auteur Joe DiPietro et l'a poussé à écrire « Conscience » en 2019. La pièce a été jouée brièvement dans la région de New York juste avant la pandémie. Elle a été reprise cet automne à Portland, dans le Maine. La pièce ne porte pas sur McCarthy, mais sur la sénatrice Margaret Chase Smith. La dame du Maine est encore révérée dans son État, mais largement oubliée dans son pays. C'est pourtant elle, la première, qui a tenu tête à McCarthy quand tout son parti tremblait devant lui. Rien ne destinait Margaret Chase à la carrière politique, mais à 32 ans, elle s'est mariée avec Clyde Smith, propriétaire d'un journal local et représentant républicain au Congrès. Tombé malade, il a demandé à sa femme de le remplacer et est mort peu de temps après. Elle a été réélue 3 fois, puis s'est présentée au Sénat où elle s'est retrouvée seule femme de l'Assemblée. Elle avait goûté aux fausses accusations de sympathie communiste de la part d'un adversaire de son propre parti. À l'époque, les tentatives de déstabilisation soviétique étaient bien réelles et ce genre de rumeurs pouvait défaire une carrière. La paranoïa anticommuniste était très répandue. Après 1 an au Sénat, dégoûtée par les tactiques de McCarthy, Chase Smith s'est levée en chambre pour prononcer un discours demeuré célèbre, la Déclaration de conscience. Elle concédait qu'à ses yeux, l'administration démocrate de Truman avait été complaisante face aux communistes. Mais cela ne justifiait pas l'émergence d'une philosophie politique malhonnête et injuste. « Je ne veux pas, a-t-elle dit, que le Parti républicain atteigne la victoire avec les 4 chevaliers de la calomnie, la peur, l'ignorance, l'intolérance et la diffamation. » C'était le 9 février 1950. 6 sénateurs républicains avaient co-signé son discours. McCarthy a continué ses enquêtes pendant encore 4 ans, détruisant au passage des vies et des carrières. Bien informé par le sinistre directeur du FBI de l'époque, J. Edgar Hoover, il a menacé la sénatrice de rendre publiques les infidélités de son ex-mari et l'homosexualité de son assistant. Elle n'a pas flanché. Il n'y avait vraiment rien à trouver dans la vie privée de cette femme qui quittait le bureau à 17 heures pour aller étudier ses dossiers chez elle en soirée, tandis que ses collègues allaient prendre un coup. La campagne de McCarthy était bien sûr enrobée dans le patriotisme. Le McCarthyisme, c'est l'américanisme avec les manches retroussées, disait le sénateur. Sa réplique au discours de Chase Smith, qui ne le nommait pas mais le visait clairement, il l'a appelé « Blanche-Neige et ses 6 nains ». Une insulte que ne renierait pas Trump. Ça ne l'a pas démonté. Et elle a continué à être parmi les rares opposants publics de McCarthy. Puis, en 1954, le sénateur Lester Hunt s'est suicidé dans son bureau. McCarthy l'avait menacé de révéler l'homosexualité de son fils s'il se représentait. C'en était trop. le Sénat a finalement voté une rarissime motion de censure contre McCarthy. Ce fut officiellement la fin du McCarthyisme. La dame du Maine a ensuite été la première femme candidate à l'investiture du Parti républicain en 1964. Elle a continué sa carrière de sénatrice jusqu'à 74 ans quand elle a été battue. On la qualifie souvent de républicaine modérée à cause de son fameux discours de 1950. Mais elle a été parmi les plus conservateurs de son parti, partisane de menaces nucléaires contre l'URSS et soutenant la guerre au Vietnam jusqu'à la fin. Le McCarthyisme était une maladie nationale dont nous avons guéri, a-t-elle dit en 1970. C'était l'époque des émeutes étudiantes sur les campus, une autre maladie nationale dont nous guérirons, j'espère. Elle est morte en 1995 à 97 ans, dans sa petite ville, Skowhegan, où on l'a toujours vue avec son inévitable rose au corsage, comme celle qu'elle avait déposée sur l'ancien pupitre de John F. Kennedy au Sénat le lendemain de son assassinat. J'allais oublier de dire que le cerveau des audiences présidées par McCarthy était l'avocat Roy Cohn, dont il était le procureur principal. Le même Cohn a ensuite été avocat pour Donald Trump et son père à New York de 1974 jusqu'à sa mort en 1986. Il a aussi été le mentor de Trump dans la vie publique. Il lui a enseigné comment détenir le pouvoir en inspirant la peur. Son conseil, aussi donné à McCarthy, tient en une formule simple. Attaque, contre-attaque, ne t'excuse jamais. C'est une histoire qui rime, je vous dis. Y a-t-il une Margaret Chase Smith au Sénat? Dans le Parti républicain, quelqu'un pour dire non aux abus du futur président? Ces tactiques rappelle celle de McCarthy, mais le pouvoir d'un président est incomparablement supérieur. Celles et ceux qui ont osé parler ont été éjectés ou se sont retirés. Les Margaret Chase Smith ont toujours été rares. C'était Le courage d'une politicienne oubliée, un texte d'Yves Boisvert paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Un journaliste de combat sous le poids de l'Église. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. Paul-Marc Sauval est un journaliste libéral radical qui va, en quelque sorte, être enterré vivant par les milieux conservateurs nationalistes dominants en son temps. Qui connaît le nom de Sauval aujourd'hui? C'est un professeur allemand, Hans-Jürgen Lusbrink, attaché à l'Université de la Sarre, qui nous le fait découvrir plus d'un siècle après sa mort. Sauval fut ruiné par une suite de procès et de coups que lui assénèrent le clergé catholique et sa clique. Il quitta Montréal pour terminer sa vie à peu près sans le sou, à Ottawa, l'une des villes les plus ennuyeuses du monde, dira-t-il. Entre-temps, il aura bousculé sur les rives du Saint-Laurent le monde des idées enchaînées aux intérêts du clergé. Haut en couleur, attaché à bien des journaux, il n'en fut pas moins oublié. Le parcours de Sauval est à tous égards étonnant. Né en France en 1857, cet homme au visage rond devient officier de l'armée avant d'être forcé de changer son fusil d'épaule. Diplômé de la prestigieuse École spéciale militaire de Saint-Cyr, Sauval appartient à l'aristocratie des militaires, c'est-à-dire au corps des cuirassiers. Le cavalier Sauval est un habitué des cliquetis, des harnais dorés, des cuirs lustrés, des chevaux brossés et de l'éclat des sabres destinés à s'enfoncer dans les chairs vivantes. L'armée va juger bon de le pousser vers la sortie. Lui sont reprochées ses dépenses extravagantes au profit d'une vie dissolue menée entre les bras d'une actrice de café-concert qui le fait chavirer corps et âme. Proscrit en son propre pays, Sauval tenta sa chance de l'autre côté de l'Atlantique. Le voici colon au Texas, à San Antonio. Il y perd jusqu'à sa chemise avant de retraiter, à pied, du côté de la Nouvelle-Orléans. Journaliste en Louisiane, il le sera aussi de l'autre côté du Rio Grande. À Mexico, où il s'est installé, Sauval est craint par le pouvoir en place. Il publie des textes particulièrement critiques à l'égard du gouvernement mexicain. Ce dernier va l'expulser. Et c'est ainsi que Sauval finira, après quantité de rebondissements, par s'installer sur les rives du Saint-Laurent. Au Canada, ses écrits comptent parmi les plus éclatants du 19e siècle canadien, estime Hans-Jürgen Lusbrink. Alors, comment a-t-on pu les ignorer si longtemps? Être libéral. Sauval affirme d'une belle plume des idées libérales. Qu'est-ce que cela veut dire être libéral en son temps? Les libéraux réclament l'égalité politique sans pour autant insister sur l'égalité sociale. Ils croient dans la souveraineté populaire, mais balisés par crainte de voir la liberté s'évanouir. Ils en appellent surtout à une ouverture sur le monde qui prend une dimension économique. Ils sont convaincus de la nécessité de la libre circulation des capitaux et des marchandises en se projetant dans l'espérance d'une société qui progresse grâce à l'amélioration de l'éducation. Ils aiment le marché et se méfient du clergé. Sauval agite, sous le nez de ceux qui le détestent, le mot « cosmopolitisme » comme son drapeau. Sans surprise, Sauval va se brouiller avec le parti de Wilfrid Laurier. Ces libéraux-là, pour des motifs électoralistes étroits, ils leur reprochent de trop se rapprocher du clergé. Conséquence, le grand Laurier va en venir à le mépriser, ce qui va accélérer sa chute. Laurier est même très méchant avec lui, résume Hans-Jürgen Lusbrink. Qui sont les proches de Sauval? Des gens qui, à plusieurs égards, lui ressemblent en tout ou en partie. Honoré Beaugrand, Louis Fréchette et Arthur Buy sont de ses amis, tout comme Godefroy Langlois. Il s'identifie, en outre, bien volontiers à des figures comme Michelet, Voltaire, Zola, Maupassant et Hugo. Ce curieux homme s'intéresse de près à la littérature. Au Canada, fort de cette sensibilité, il est un défenseur des livres à l'index, ses lectures nombreuses interdites par le clergé tout-puissant. Sauval va diriger pendant quelques mois le Canada Revue de son camarade Aristide Filiatro, une feuille qui rend fou de rage Monseigneur Fabre, l'évêque de Montréal. Il sera le rédacteur en chef de La Patrie de son ami Fréchette. Il appartiendra aussi à la rédaction du journal La Presse. Bref, il est de plusieurs lieux où se livrent des combats en faveur d'une société plus ouverte, au nom du progrès et des réformes que lui suggère la nécessité de connaître, grâce à une honnête administration, un monde porté par les affaires et leur progrès. Pourquoi son nom n'est-il plus jamais mentionné nulle part? En comparaison, il a beaucoup été question d'un de ses principaux opposants, Jules-Paul Tardivel. Ce Tardivel est le directeur emphatique d'un journal obscurantiste baptisé La Vérité. Pour Tardivel, la vérité se résume à ce qui est proféré par l'Église. Il sera l'auteur d'un pauvre roman, pour La Patrie, dans lequel il fait advenir, dans une anticipation, un Québec indépendant et mystique qu'il envisage selon les termes de sa pensée étroite. Dans une logique de conspiration, sous le couvert d'une fiction, il règle là-dedans ses comptes avec Sauval, lui qui a ferraillé contre lui devant les tribunaux. Parmi plusieurs autres grands noms qu'on connaît plutôt mal encore aujourd'hui, c'est Sauval le plus oublié, estime le professeur allemand, en partie parce qu'il était un ennemi juré de pareils clérico-nationalistes, dont les idées ont par la suite servi de cadre interprétatif à l'écriture de l'histoire. On a trop souvent écouté ce courant d'idées porté par les conservateurs, en négligeant ce que nous devions aux libéraux du 19e siècle, soutient le professeur Lusbrink en entretien. Sauval soutient l'autonomisation du système scolaire, explique Hans-Jürgen Lusbrink. Il favorise la prise de distance de l'État avec le clergé. À son sens, il anticipe, par certains côtés, un courant d'idées qui va jaillir à l'orée des années 1960, après la mort de Maurice Duplessis, dans ce qu'on a décrit comme la Révolution tranquille. Ce sont les bases d'un héritage intellectuel méconnu qu'on trouve chez Sauval, croit l'universitaire. Il y a eu un Québec libéral, il ne faut pas l'oublier. Fruit du hasard. Hans-Jürgen Lusbrink a croisé une première fois l'œuvre de Sauval au hasard de ses recherches. En travaillant sur les almanachs populaires du Québec, j'ai vu son nom apparaître à l'occasion, ici et là, dans des textes alimentaires, explique-t-il en entrevue. En 2014, le professeur Lusbrink a fait paraître le livre « Aimé du peuple », un ouvrage consacré aux almanachs québécois de 1777 à nos jours. À partir de là, il s'est consacré avec attention à Sauval. Difficile de retracer sa vie, ses archives ont été perdues, dispersées, oubliées. Sauval m'intriguait d'autant plus, dit-il. Je me suis intéressé à lui après avoir croisé plusieurs de ses textes. Je ne savais pas du tout qui il était. Après des années de recherche, il nous l'apprend enfin. Hans-Jürgen Lusbrink est professeur principal de culture romane et de communication interculturelle à l'Université de la Sarre. Au cours des derniers jours, il a offert des conférences au Québec sur la figure de Paul-Marc Sauval à l'occasion de la parution de son livre « Paul-Marc Sauval, 1857-1920, journaliste engagé et intellectuel cosmopolite canadien-français ». C'était « Un journaliste de combat sous le poids de l'Église », un texte de Jean-François Nadeau paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le henné et le savon d'Alep, reconnu par l'UNESCO, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 septembre 2024 dans la presse. L'UNESCO poursuit son indispensable travail de préservation. D'ici jeudi, l'organisation onusienne devrait ajouter 66 nouveaux éléments à sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité, dont le henné, le saké et le savon d'Alep. Depuis 2008, 145 États ont vu une ou plusieurs de leurs pratiques culturelles traditionnelles homologuées. Parmi celles-ci, la pizza napolitaine, 2017, la capoeira brésilienne, 2014, le flamenco espagnol, 2010, la baguette française, 2022. Le henné. Pas moins de 16 pays arabes défendaient cette année la candidature du henné. Parmi ceux-ci, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Très répandu dans ces contrées, le henné est une plante dont les feuilles sont séchées, broyées, puis transformées en une pâte servant à tatouer notamment les avant-bras et les pieds de femmes participant à un mariage, mais aussi à teindre les cheveux ou encore porter chance au bébé. Le henné symbolise le cycle de vie d'un individu, de la naissance à la mort, et il est présent lors des grandes étapes de la vie de celui-ci, explique le texte de son inscription au patrimoine immatériel. Le saké. Connu mondialement, le saké est un alcool de riz fabriqué à partir de grains et d'eau de qualité et profondément ancré dans la culture japonaise. La boisson est aujourd'hui produite en masse dans des usines modernisées où le processus de fermentation est automatisé, mais des artisans continuent à la fabriquer selon la méthode traditionnelle. Son inscription par l'UNESCO est une bonne nouvelle pour cette industrie qui fait face à un déclin de la consommation dans son propre pays. Depuis les années 1970, celle-ci aurait en effet chuté de 70%. Les jeunes préférant le vin et la bière à cet alcool perçu comme vieillot. Régression néanmoins compensée par les ventes à l'étranger. Le savon d'Alep. Entre guerre civile et catastrophe naturelle, la ville d'Alep, en Syrie, a connu sa part de déboires au cours des 10 dernières années. L'inscription du savon d'Alep à la liste de l'UNESCO doit donc être considérée comme un baume pour ceux et celles qui pratiquent cet artisanat depuis des siècles et des générations. Selon l'UNESCO, environ 50 à 75% des communautés d'Alep sont impliquées dans la fabrication ou le commerce de ce savon qui contient des huiles d'olive et de baies de laurier naturelles produites localement. À noter que la ville de Naplouse, en Palestine, a également soumis la candidature de son savon traditionnel. Rubab ou rabab, cette guitare traditionnelle d'Asie centrale est très présente au Tadjikistan, en Iran ou en Ouzbékistan. Elle est utilisée dans de nombreuses cérémonies, notamment les mariages, les célébrations, les rassemblements locaux, les funérailles et les pratiques de guérison. C'était aussi l'instrument national de l'Afghanistan jusqu'au retour des talibans en 2021 qui interdisent toute pratique musicale en public. Plusieurs musiciens de rubab ont ainsi dû s'exiler pour continuer à se produire ou doivent désormais jouer dans la clandestinité sous peine de représailles. Des rites en voie de disparition. Parmi d'autres pratiques soumises à l'UNESCO, soulignons la fabrication de l'atiéké, semoule de manioc, en Côte d'Ivoire, ou de la cassave, galette à base de manioc, à Cuba, en République dominicaine, en Haïti, au Honduras ou au Venezuela. Deux pays ont par ailleurs déposé des candidatures nécessitant une sauvegarde urgente, à savoir l'Indonésie avec l'art du spectacle du Reog Ponorogo et le Botswana avec le rituel Wosana. Ce dernier ne serait plus pratiqué que dans trois villages, conséquence d'un rejet généralisé des rites traditionnels au profit du catholicisme. Seuls 20 praticiens âgés sont disponibles pour exécuter l'élément dans tous les villages où il est pratiqué, précise l'UNESCO. C'était le henné et le savon d'Alep reconnu par l'UNESCO, un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 4 septembre 2024 dans la presse.
La francisation, mission impossible? Un texte de Frédéric Lacroix, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir. Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, vient de produire un volumineux rapport sur la question brûlante de l'heure, l'immigration temporaire. La force du document est de rassembler les données pertinentes en une seule synthèse accessible et également de cadrer rationnellement le débat sur la francisation. Plusieurs constats ressortent. Premièrement, l'immigration temporaire est hors de contrôle avec une croissance de 86 065 à 528 034 immigrants temporaires en 7 ans. Et, deuxièmement, cette immigration est une cause directe d'anglicisation. La population non permanente représente maintenant 6 % de la population du Québec et le tiers ne parle pas français. Cette hausse incontrôlée, anarchique, de l'immigration temporaire est en train de conduire non seulement à une crise du logement sans précédent, à une crise généralisée des services publics, mais aussi à une forte accélération de l'anglicisation du Québec. Depuis 2011, la part de la population qui ne connaît pas le français a augmenté de 52 % et celle de ceux qui travaillent en anglais de 41 % Bilinguisme concurrentiel. Là où le commissaire frappe, et frappe fort, c'est en se penchant sur la question de la francisation éventuelle de ces volumes d'immigrants. Il met le doigt, sans le dire avec ses mots, sur le bilinguisme concurrentiel qui règne au Québec comme source des problèmes de francisation des immigrants, c'est-à-dire l'existence de deux sociétés d'intégration parallèles, l'une anglaise et l'autre française. Les immigrants étant libres de choisir l'une ou l'autre en fonction de leur tropisme ou de leur maîtrise préalable de l'anglais ou du français. Ce bilinguisme concurrentiel est maintenu, au Québec seulement, par la loi sur les langues officielles fédérales et aussi par le Québec, qui, malgré ses affirmations, est un État qui maintient le bilinguisme concurrentiel dans les services publics. La loi 96 n'ayant pas mis fin à la chose de manière convaincante, et dans tout le réseau d'éducation postsecondaire. De plus, le Québec étant une simple province, il n'a pas de visibilité ou d'existence à l'international, ce qui fait que le message que les immigrants captent avant l'arrivée au pays est celui émis par le Canada, qui hurle à la face du monde qu'il est un pays anglais. Franciser, dans ce contexte, devient extrêmement ardu. Exemple, en équivalent à temps complet, le nombre de personnes formées par l'entremise de l'offre gouvernementale en francisation correspond à seulement 5,4% du nombre de personnes ne connaissant pas le français. Au rythme actuel, la francisation de ce bloc sera terminée dans 18 ans et demi, en supposant, simple détail, que l'immigration tombe immédiatement à zéro. Le commissaire a aussi estimé le coût que cela représenterait d'assurer une francisation de tous les immigrants temporaires qui ne connaissent pas le français. Résultat, autour de 12-13 milliards de dollars. La francisation continue d'être un fiasco, comme le titrait déjà le rapport du vérificateur général en 2017. Le Québec n'a tout simplement pas la capacité de franciser autant de monde aussi rapidement. La francisation, dans le contexte d'immigration massive qui est le nôtre, est tout simplement impossible. C'était « La francisation, mission impossible? » Un texte de Frédéric Lacroix, paru le 5 mars 2024 dans Le Devoir.